Radio Bar que nous reprenons avec notre invité du jour, Brice Minard, commandant donc de la compagnie de gendarmerie de Narbonne. Dans une première partie, Monsieur Minard, vous avez fait un petit historique et une description, alors territoriale, géographique. Nous entrons maintenant véritablement dans le corps du sujet, si je puis dire. Les missions fondamentales, vous les avez à peine évoquées, mais maintenant, concrètement, on va entrer dedans. Alors, ça veut dire le maintien de l'ordre, la sécurité des personnes, c'est peut-être un peu abstrait. Quels sont, sur le terrain aujourd'hui, par exemple dans une zone comme la Narbonnaise, les priorités de la gendarmerie?
Alors, tout d'abord, les trois grandes missions de la gendarmerie nationale, quel que soit le territoire, on a trois grandes missions. La première, c'est la mission de police administrative. La seconde, c'est la mission de police judiciaire. Et la troisième, c'est la mission de police militaire. Ce sont nos trois grandes missions. Celle qui intéresse plus particulièrement notre territoire, bien évidemment, c'est la mission de police administrative. Qu'est-ce que la police administrative? La police administrative, c'est tout simplement la police de sécurité du quotidien. Les patrouilles, la surveillance, aussi bien des axes que des ensembles urbains, que des communes. Voilà, ça c'est la mission de police administrative, c'est la garantie de l'ordre public. Et bien évidemment, quand l'ordre public est troublé, des fois, il faut rétablir cet ordre public. Donc nous intervenons aussi dans le rétablissement de l'ordre public et de l'ordre social. La deuxième, la mission de police judiciaire, qui intéresse nos concitoyens également, c'est la capacité à pouvoir constater, matérialiser et rechercher les auteurs des infractions, qu'elles soient pénales ou tout autre code.
C'est enquêter, quoi.
C'est ça, voilà. C'est la mission de police judiciaire, c'est ça. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est la capacité de pouvoir constater, quand un administré pousse la porte d'une gendarmerie ou nous appelle pour la constatation d'une infraction, c'est pouvoir matérialiser les éléments, c'est d'ailleurs constituer le fait qu'il y ait bien une infraction, et la dernière des choses, c'est rechercher ces auteurs pour les conduire devant les autorités judiciaires, qui sont nos autorités d'emploi en matière de police judiciaire. La troisième mission, c'est la mission de police aux armées, la mission de police militaire, sur le Narbonnais, qui nous touche un petit peu sur la thématique maritime, parce qu'on a une emprise maritime ici, et puis aussi on a un élément de l'armée de l'air sur le secteur qui dépend de notre compétence quant à sa sécurisation avec nos camarades de l'armée
ça,
de l'air.
C'est le radar.
Tout à fait. Donc voilà, on a une petite mission de police aux armées, et puis également avec une action particulière sur ici, on a un centre de recrutement de l'armée de terre où pareil, on a une attention particulière sur ce lieu. Donc voilà, c'est les trois grandes missions. Dans cette mission de police administrative, c'est là où nos concitoyens nous voient le plus, voilà, en patrouille, à pied, en vélo, en voiture, à cheval, même l'été. Et c'est au cours de cette mission de police administrative qu'on est dans ce qu'on appelle la fonction contact auprès de nos concitoyens, auprès des acteurs économiques, auprès des acteurs politiques, les élus, afin de pouvoir écouter, comprendre, entendre le territoire et construire avec aussi les partenaires les solutions de sécurité adaptées à ce territoire.
Et alors, concrètement, aujourd'hui, quels sont les problèmes principaux auxquels vous êtes confrontés?
Le premier, je vous dis, des soucis, des problèmes que l'on rencontre, à l'échelon de base, c'est l'incivilité. L'incivilité, la plus petite, conduit parfois à la délinquance. La délinquance conduit à la criminalité. Donc,
l'incivilité, c'est un mot bien gentil, mais
l'incivilité, c'est en fait la capacité à ne pas vivre correctement ensemble.
Ne pas respecter
l'autre. Et l'autre peut être aussi également le bien collectif, le collectif, et ça, ce sont les règles après. Mmh. La première des choses est un principe éducatif. On nous a toujours appris la liberté des uns commence là où s'arrête des autres. Mmh. Donc le gendarme, déjà, c'est cette figure-là. C'est être pouvoir le garant du vivre ensemble dans les limites de l'acceptable. Et après, effectivement, c'est la délinquance, la surveillance, la lutte contre les atteintes aux biens, les cambriolages. Ça, c'est pareil dans la police administrative, dans la phase préventive. Cette lutte contre les cambriolages, cette lutte contre la délinquance du quotidien. La délinquance du quotidien, ça peut être également les dégradations, ça peut être toutes ces choses-là, les violences et autres. Et quand on est dans la prévention de cela, la patrouille l'empêche. C'est-à-dire voilà, la présence de voies publiques, l'empreinte au sol du gendarme a une action dissuasive. Mais quand la dissuasion ne marche pas et que l'infraction a été commise, nous passons sur la phase police judiciaire. Et dans cette phase de police judiciaire, en fait, c'est là où nous entrons sur la phase enquête, avec les constatations, la recherche des traces et indices, l'audition des personnes, les mesures coercitives d'interpellation, et voilà. En matière de police judiciaire, ce qui est majoritaire sur notre territoire, bien évidemment, malheureusement, c'est les atteintes aux personnes. Et ça, moi, dans ma politique de sécurité globale sur ce territoire, j'y mets un point d'orgue, c'est la protection des personnes les plus vulnérables. Et quand je dis vulnérables, c'est-à-dire la cellule intrafamiliale, les femmes, les enfants, les discriminations, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, ça, c'est vraiment, pour moi, la priorité des priorités en termes de protection et justement de traitement très rapide. Voilà. Dès qu'on touche à l'intégrité d'une personne, on se doit, justement. Et je rentre aussi également dedans, pardon, également, pour moi, ce qui est important aussi, c'est la protection de nos enfants, nos mineurs, dans la structure scolaire, dans le principe de harcèlement, dans le principe, ça peut être ravageur.
La violence intrafamiliale, c'est une expression qu'on connaissait assez peu jadis et qui est devenue malheureusement très courante dans l'actualité.
Alors moi je dirais que malheureusement jadis elle existait déjà et qu'on a pris conscience, on va dire, de cela tardivement par rapport à
ce
qui existait déjà.
C'est plus une révélation qu'une nouveauté,
voilà.
En fait.
Alors pour nous oui, c'est pour nous gendarmes, on a toujours à s'améliorer, on a toujours à améliorer nos process, mais on a été proactif en la matière parce qu'on n'a pas attendu cette révélation pour mettre des choses en place. Et donc on continue aujourd'hui à faire évoluer notre modèle qui est vraiment un modèle qui fonctionne bien, mais qui se doit d'évoluer tout le temps. On a toujours ce besoin de formation, de compréhension et ainsi de suite. Donc quand une personne pousse la porte d'une gendarmerie ou nous appelle, il faut qu'elle comprenne qu'elle soit en confiance. Et ça, c'est important pour nous, et que sa parole sera recueillie, entendue, et que nous assurons, la première des choses, sa sécurité. Ça, c'est important. Et pour revenir sur les violences intrafamiliales, oui, c'est une thématique nationale. Elle ne correspond pas qu'à la compagnie de gendarmerie de Narbonne. On considère aujourd'hui qu'une garde à vue sur deux menée en France est dans le cadre de violences dans la sphère familiale.
C'est-à-dire qu'en fait, jadis, la famille apparaissait comme quelque chose, une sorte de sanctuaire, mais c'était un leurre, finalement.
Alors oui. Et puis, ça touche tous les milieux. Voilà, c'était un leurre. Ce qui est aujourd'hui plus acceptable était parfois accepté, faisait partie de la normalité. Je vous engage, si vous souhaitez également, nos auditeurs, à revoir la chaîne INA, où justement il y a quelques prises de vue des années 70 et on comprend un peu mieux la conception un peu de la famille et du positionnement notamment des femmes au sein de la famille. Donc oui, on a beaucoup évolué, on doit continuer d'évoluer et on se doit de prendre en compte ça. Et également, pour pouvoir prendre en compte, c'est un principe éducatif de nos enfants. Et ça, c'est important. La perception qu'on a de la sphère familiale et de la place de chacun doit être prise en compte par nos enfants pour que ces modèles ne se réitèrent pas demain. Mais on met aussi en parallèle de cela une société aujourd'hui qui est en prise avec une perte de repères, une perte parfois de valeurs et qui augmente ce qui existait déjà.
Et alors, parmi les autres choses que l'actualité met en exergue, à tort ou à raison, mais probablement quand même à raison, il y a la drogue, alors
tout à fait.
La consommation, mais la partie émergée de l'iceberg, c'est le trafic et le deal. Qu'en est-il sur Narbonne ?
Je fais le parallèle justement avec la conclusion de mon propos sur les violences intrafamiliales. On a une société qui est en perte de repères de valeur, perte de repères éducatifs, où d'ailleurs je salue le travail de l'éducation nationale et puis également de nos instances sanitaires sur cela, sur justement être les gardiens de certaines valeurs et de concepts. On a une société qui va mal et on a une société aujourd'hui qui a, avec cette perte de repères, développe des conduites déviantes, et les stupéfiants font partie de ces conduites déviantes. Donc effectivement, on a des gens qui ont besoin de consommer des stupéfiants ou qui ressentent le besoin à tort de consommer des stupéfiants, et puis on a des gens qui ont bien compris, tel qu'un marché économique, il y a de l'argent à se faire par rapport à ces stupéfiants. Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur et comme l'a rappelé notre directeur général de la gendarmerie, c'est pas nouveau, ça c'est certain, mais la délinquance ne connaît pas de frontières et la délinquance du narcotrafic ne connaît pas de frontières.
En ce qui concerne la consommation, on peut avoir l'impression que ça s'est banalisé.
Tout à fait. C'est ce que je souhaite aussi mettre en avant, c'est que la consommation des stupéfiants s'est banalisée.
Or, c'est pas anodin.
C'est absolument pas anodin, c'est un réel sujet de santé publique. Santé publique, c'est un réel sujet de génération de délinquance, c'est un réel sujet de génération d'économies parallèles, donc une forme de délinquance, et c'est un réel sujet à l'échelon international de géopolitique sur l'alimentation d'entreprises à caractère soit terroriste ou de très très grande criminalité qui alimente des États voyous ou qui alimente des groupes terroristes qui frappe notre territoire aussi, ça faut le dire.
Mais donc, dans la vie du quotidien, en quelque sorte, il y a par exemple de temps en temps un procès médiatique comme celui récent de Pierre Palmade, où on s'aperçoit que certains artistes consomment de la drogue comme on consomme du pain au petit déjeuner.
C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la banalisation, on le voit, et en plus cette banalisation est exacerbée aujourd'hui par des outils de communication sur nos smartphones, tablettes,
et
les réseaux sociaux.
On découvre la gravité de la chose.
Exactement, on va découvrir la gravité de la chose. Sur nos territoires, c'est une réalité aussi, il ne faut pas se voiler la face. C'est
Narbonne
une réalité.
N'y échappe pas,
Le Narbonnais n'y échappe pas, bien évidemment, et puis pas simplement dans un périmètre urbain, il y a aussi dans la ruralité où on a effectivement de la consommation stupéfiante, et qui dit consommation dit bien évidemment trafic, vente, cession. Donc on s'engage, nous, au niveau de la compagnie avec les moyens qui sont les nôtres et voire des moyens supérieurs qu'on a des fois à notre disposition. Je pense à la section de recherche de Montpellier qui vient agir à nos côtés, ou d'autres instances au niveau du groupement de l'Aude. On a une réelle action sur ce trafic, mais pour agir sur ces trafics, on a également un besoin de casser en fait la dynamique de l'acheteur. Donc s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de trafic. Mais ça, c'est une vision simpliste, il n'y a pas que ça.
Oui.
Donc il y a tout un système, tout un concept
oui,
à mettre en place.
Oui, parce que c'est presque une banalité de le dire. S'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas
tout
de dealers, il n'y aurait pas de trafiquants. Mais on ne peut que le constater et ça s'arrête aux paroles.
Tout à fait. Sauf que nous, on agit aussi sur la compagnie, fort de ce constat-là, qui n'est pas récent. Nous avons créé une cellule d'enquêteurs dédiés à la lutte contre les trafics de stupéfiants sur notre territoire, en lien avec les unités territoriales, en lien aussi avec les partenaires, bien évidemment, parce que faut pas oublier que la première source en fait de remontée de l'information pour nous, c'est aussi les forces locales, les polices municipales, les élus aussi, qui nous font part de leurs inquiétudes, de leurs constats. Donc à partir de là, et on se doit justement d'agir, et c'est ce que j'ai souhaité mettre en place sur ce territoire. Nous avons des outils juridiques pour y arriver, bien évidemment, et ici je souligne l'action du parquet de Narbonne, qui nous donne les outils juridiques, qui existent déjà dans le CPP, mais aussi d'autres outils juridiques avec une offensivité certaine, la saisie, la confiscation, la possibilité également aujourd'hui de mener, même qui existait, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus mis en avant ce qu'on appelle des enquêtes miroirs, qui nous permettent aussi d'aller chercher sur les prestations sociales, d'aller pouvoir aussi recouvrir des impôts, ou aujourd'hui également recouvrir des amendes qui étaient impayées,
oui,
avec
la
saisie, l'argent liquide qui est issu de choses non justifié est reversé au trésor public dans l'attente soit du procès ou alors le paiement immédiat d'amende qui sera en souffrance ou alors de ce que l'on doit au trésor public.
Oui, justement, la justice à Narbonne, il y a un procureur qui s'est beaucoup impliqué sur ce que vous venez de dire.
Tout à fait.
Les façons d'appliquer les sanctions.
Oui, le procureur de la République est le magistrat qui dirige la police judiciaire sur un tribunal judiciaire. Et donc, dans ce cadre, il donne des orientations aux services d'enquête et il donne des outils aussi juridiques. Et effectivement, le parquet de Narbonne est très offensif, avec également des moyens, on va dire, à la fois humains et des moyens explicatifs et pédagogiques est vraiment ciblé, qui donne aux enquêteurs la capacité de pouvoir traiter sur ce que nous souhaitons mettre en œuvre sur le territoire pour le bien de nos concitoyens, pour leur sécurité.
C'est-à-dire aller au bout du processus.
On va au bout du processus. Et en complémentarité, également, on a les forces, on va dire, l'autorité administrative sous l'égide du sous-préfet de Narbonne, qui met en place aussi, de manière préventive ou répressive, des actions permettant aussi de pouvoir garantir l'ordre public sur les territoires.
On marque, Brice Minard, une seconde pause.